Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis Olivier Delacroix, je suis ravi comme chaque jour de vous accueillir en direct jusqu'à 16h. Je suis en compagnie comme d'habitude de ma camarade Ombline, comment
allez-vous ? Bonjour, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, qu'elles soient lumineuses, qu'elles soient plus dures, car Europe 1 s'intéresse à vous rebondir après une épreuve, aussi dure soit-elle, surmonter le malheur et parfois même faire de son traumatisme une force. C'est ce que l'on appelle en psychologie la résilience. En France, c'est le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui a mis en lumière ce concept. Il dit, je cite, « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. C'est cette capacité à vivre, à réussir en dépit de l'adversité, du traumatisme. Mais comment est-ce possible ? Comment s'en sortir après avoir été victime de violences sexuelles, d'un attentat, après avoir été victime de l'inimaginable ? Est-ce inné ? Résilience, comment rebondir après un traumatisme ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque jour, au standard Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute. On vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1, ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Gwenaëlle sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Gwenaëlle.
Oui, bonjour Olivier.
Je crois que vous nous appelez de Belgique.
Voilà.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous exactement ?
Alors, j'ai 51 ans, je suis française vivant à Bruxelles, et voilà.
Bon. Gwenaëlle, vous avez vécu ce qu'on peut qualifier d'impensable il y a 7 ans, car vous avez perdu votre fille dans un accident dont on n'est pas obligé de rentrer dans les détails de cet accident, mais pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé en gros dans cette histoire ?
Oui, donc elle était, nous l'avions confiée à un camp scout, un camp de Jeannette. Oui. Et donc elles se sont assises, elle et ses amis, sur une chaîne à l'entrée de deux colonnes de pierre qui délimitaient la propriété où le camp avait lieu. Et le poids des petites filles sur la chaîne a fait basculer une des colonnes de pierre. Et donc ma fille a reçu 600 à 800 kilos de pierre sur la tête. Mmh. Donc elle est décédée sur le coup. Mmh.
On imagine bien qu'au départ... c'est l'effroi. Comment est-ce que vous avez vécu tout de suite cet événement et l'année qui a suivi cet événement ?
Alors sur le coup, on ne prend pas la mesure de ce qui s'est passé, heureusement. On comprend que le décès a eu lieu. On a reçu un coup de fil, on était en France justement, on a reçu un coup de fil de la police belge. Donc voilà, on a dû croire sur parole cette voix au téléphone qui nous annonçait ça. Au début, donc, on se rend pas compte de tout ce qui va... je dirais, sans suivre. Donc on est un petit peu en navigation à vue. On fait ce qu'on peut et je dirais les premières semaines, les premiers mois, le challenge de la journée, c'est de se lever, de se nourrir et de se recoucher le soir. Et si on a passé une journée, on est déjà content. Mm-hmm. Et bien petit à petit, après, bon, les choses évoluent, heureusement.
Mm-hmm. Ce qui a été fondamental dans cette évolution dont vous parlez et salvateur, c'est la présence de vos amis, mais pas toujours de ceux sur qui vous auriez pensé pouvoir compter dans un tel événement.
Voilà, et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vécu moi, mais que d'autres aussi ont vécu dans les mêmes circonstances. En fait, on se rend compte que certains amis très proches ne savent pas comment gérer la situation, n'osent pas vous approcher, ont peur de vous voir, de parler avec vous, et donc ils vont être un peu aux abonnés absents pendant un temps. Et donc au début, bah, évidemment, on le prend pas très très bien, parce qu'on s'attend, on a besoin d'aide, et on s'attend justement à ce que ses amis proches soient là. Mais à l'inverse, heureusement, il y a aussi des gens qu'on connaissait peut-être moins bien, qui, par leur vécu par exemple, ou quoi que ce soit, vont ne pas avoir peur de vous et vont venir vers vous sans que vous l'ayez demandé. Et finalement, ben voilà, il faut saisir toutes les mains qui sont tendues. Et donc voilà, tout le paysage autour de nous, le paysage amical, bouge à ce moment-là. Ouais. C'est un peu surprenant, mais c'est comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas que mon histoire, mais celle de beaucoup d'autres également.
Mmh. On verra d'ailleurs que vous avez partagé cette histoire, ce drame avec d'autres parents par la suite. Mais dans ce drame, c'est votre psychanalyste à vous qui vous a le plus accompagné. Vous avez ressenti le besoin tout de suite de voir un professionnel ou ça a pris quelque temps ?
Alors, c'est une psychologue que j'ai vue, pas une psychanalyste.
D'accord.
J'ai pas vraiment ressenti le besoin du tout, pour être très honnête, mais mon raisonnement, c'était un petit peu de dire, là, j'ai jamais vu de psy dans ma vie, mais si je le fais pas quand j'ai perdu ma fille, je sais pas quand je le ferai. Donc, j'ai commencé un peu comme ça. Et ça, j'ai pas été, j'ai pas eu l'impression au début que ça m'apportait grand chose parce que j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait des écoles de psychologie différentes et celle, la psy chez qui j'allais, était, faisait partie d'une école où on parle pas beaucoup, on écoute. Et moi, j'avais pas besoin de ça parce que j'avais l'impression de parler déjà beaucoup avec mes amis que je voyais très très régulièrement et qui étaient vraiment patientes, à l'écoute, etc. Et donc, j'attendais de la psy quelque chose d'autre que, des réponses et un accompagnement professionnel. Une sorte de guidance, parce que moi, je ne connaissais pas ce chemin de deuil que je commençais à vivre, et j'avais vraiment besoin de jalons, d'aide, et j'avais besoin qu'on me dise, là, ce que vous faites, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et donc, voilà, j'y suis allée un peu en me forçant pendant un bon moment.
La perte d'un enfant est souvent décrite comme un puits sans fond dans lequel on tombe et dans lequel on ne peut pas s'accrocher aux parois parce qu'on glisse, on glisse. Est-ce que vous avez ressenti pendant un long moment et est-ce que vous sentiez que la dépression vous guettait dans cette chute ?
J'ai pas ressenti ça comme ça. Je me suis dit en fait très rapidement que j'avais deux options. L'une, c'était de me jeter sous un tram et l'autre, c'était de continuer à vivre. Et donc, je me suis dit, à partir du moment où je choisis de continuer à vivre, il faut le faire le mieux possible. Donc, j'ai vraiment saisi toutes les mains tendues, toutes les perches possibles. Donc, oui, la première année, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'objectifs autres que survivre, c'est vraiment ça. Et encore une fois, avec le temps, qui est vraiment un facteur clé, petit à petit, je dirais, la vie revient. Elle est certainement différente de celle qu'on avait avant.
Bien sûr.
Il faut l'accepter. Mais heureusement, voilà, c'était pas un puits sans fond. C'est une épreuve infiniment dure et qui est avec moi tous les jours, encore maintenant. Mais je dirais aujourd'hui, 7 ans après, ça ne m'empêche pas de vivre, d'avoir plein d'activités, de revoir du monde, de rigoler, d'avoir une vie presque normale, en apparence en tout cas.
Je voulais vous demander, Gwenaëlle, est-ce que vous avez aussi réussi et décidé de vivre pour les autres, pour un mari, pour des enfants, pour une famille, et dépasser cette souffrance?
Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est effectivement un moteur. Donc, j'ai un mari et un fils. Et donc, c'est sûr que, ne serait-ce que pour mon fils, j'avais vraiment envie de qu'il ne puisse pas dire un jour « ma mère a complètement sombré à ce moment-là et j'ai pas pu compter sur elle ». Donc, ça a été certainement un moteur et j'ai eu la chance d'avoir un autre enfant. Et je sais que j'ai toujours du mal à imaginer comment on peut perdre un enfant unique, par exemple.
Gwenaëlle, restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de cette résilience face au drame à travers l'histoire que vous avez vécue.
Europe 1.
Comment surmonter un traumatisme? On vous écoute au 39-21 et vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous écrire sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1. Vous échangez avec Olivier Delacroix au 39-21 sur Europe 1. On parle de la résilience. Vous avez vécu une épreuve traumatisante et vous avez réussi à rebondir. On vous lit aussi sur Twitter, hashtag Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Gwenaëlle qui nous appelle de Bruxelles. Gwenaëlle, on a parlé de vous, mais on a peu parlé de votre mari. En fait, y a-t-il eu une différence entre vous et lui de vivre ce drame ?
Alors effectivement, c'est une bonne question. Il y a très souvent des différences dans un couple par rapport à un deuil d'enfant, tout simplement parce que déjà on est en principe, dans la majorité des cas, un homme et une femme, donc on va pas réagir de la même manière, parce qu'on a chacun sa relation avec l'enfant, et donc c'est au début c'est très déroutant également et ça peut créer des problèmes au sein de certains couples, il faut accepter que l'autre ne va pas réagir de la même manière au même moment, de manière synchrone. Une fois qu'on a accepté ça, ça va déjà beaucoup mieux, mais on va pas avoir les mêmes souvenirs au même moment, les mêmes pensées, les mêmes réactions. Donc,
ce qui peut mettre le couple vraiment à l'épreuve, puisqu'on dans la perte d'un enfant, on parle de 2 couples sur 3 qui explosent littéralement.
Oui, mais alors là, c'est quelque chose qu'on entend effectivement très très souvent, et je pense que c'est un chiffre tout à fait exagéré.
D'accord.
Depuis 7 ans que je rencontre des couples ayant perdu un enfant, c'est absolument pas le cas. Et je dirais que c'est même une petite minorité simplement qui se sépare.
Notre sujet d'aujourd'hui est la résilience. Qu'est-ce que ce terme vous inspire aujourd'hui, Gwenaëlle ?
Je dirais que c'est une... c'est très inégal. Déjà, tout le monde n'a pas la même capacité à faire face à une épreuve.
Oui.
C'est lié sans doute à toutes sortes de paramètres. Je pense que c'est la capacité à se dire qu'il y a encore une vie à vivre après une telle épreuve. Il faut y croire, parce qu'au début, c'est vraiment dur. Voilà, et moi j'ai fait le choix, par exemple, après la mort de ma fille, d'essayer de ne pas prendre du tout de médicaments, ni antidépresseurs, ni petites pilules pour dormir, ni rien du tout. J'ai fait ce choix avec l'accord de ma généraliste qui me connaît bien et de la psy que je voyais, donc à ce moment-là. C'était pas un rejet total, donc j'avais bien dit, si dans 6 mois ou dans 1 an, je suis vraiment au fond du trou et je ne fonctionne pas, je changerai d'avis, mais je préfère essayer sans. Et ça s'est bien passé comme ça, donc je suis contente d'avoir pu m'épargner ça. Mais voilà, je pense que c'est une force que j'ai qui est comme ça, et de toute manière, on m'aurait dit à l'avance, tu vas perdre ta fille et tu vas t'en sortir.
C'est ce que j'allais vous demander.
C'est
ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pensiez avoir autant de force en vous ? Parce que, bien évidemment, on peut toujours voilà, parler de drames qui nous guettent tous les uns et les autres. Hein. Mais est-ce que vous pensiez pouvoir surmonter cela et avoir autant de force en vous ?
D'abord, je dirais qu'heureusement, on n'imagine pas ce genre de choses. On n'y pense pas à l'avance, sinon on ne vivrait plus. Donc voilà, mais certainement, si on m'avait posé la question, j'aurais été incapable de croire quoi que ce soit là-dessus. Donc oui, on trouve certainement des forces insoupçonnées en soi. Et heureusement, et voilà, c'est assez fascinant d'ailleurs, mais je pense qu'il y a une envie de vivre qui vous pousse, qui vous porte. Mais voilà, le soutien de mes proches a été absolument essentiel. Pour ça, je dois bien reconnaître.
Alors, vous évoquiez votre participation à des groupes de parole dans une association, celle des parents des enfantés, en Belgique, hein, je le précise. Est-ce que, aujourd'hui, quel est votre rôle, 7 ans après, au cœur de cette association ?
Alors, c'est une association qui nous a fait beaucoup de bien au départ, parce qu'effectivement, on a pu rencontrer d'autres parents dans la même situation,
oui.
Quelle que soit la cause du deuil, ça pouvait être incendie, meurtre, assassinat, enfin, maladie, suicide, accident, tout ce qu'on veut. Malheureusement, on était assez nombreux. Mais ça a été vraiment précieux pour moi de pouvoir rencontrer des gens qui vivaient la même chose, parce que quand on perd un enfant, on peut se sentir extrêmement isolé. On a des réactions nouvelles, des pensées nouvelles, une manière d'être qui est différente d'avant, etc. Donc, on peut très vite se sentir vraiment différent de tout le monde et isolé. Donc, c'était vraiment important, même pour, je dirais, une question de santé mentale, de se dire finalement, je ne suis pas en train de perdre la boule. Je vois que d'autres, comme moi, ont les mêmes réactions, les mêmes façons de réagir, etc. Donc, ça a été vraiment précieux. Et donc, au bout d'1 an et quelques, l'association m'a demandé de faire partie de l'équipe. Donc, après mûre réflexion, bien sûr, j'ai accepté. Donc, j'ai suivi une petite formation. Et maintenant, avec d'autres, donc on accueille les parents qui arrivent dans l'association et on anime les groupes de parole à notre tour. Et je dois préciser que cette association, il y en a une équivalente en France qui est un peu partout en France, qui est très bien, qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante. On trouve ça partout sur Google facilement.
D'accord.
Et voilà, c'est vraiment précieux, comme dans toute maladie ou toutes sortes de difficultés, de trouver des pères, je dirais, avec qui on peut vraiment partager en tombant le masque. Parce que très souvent, au bout d'un moment, on fait un peu un effort quand même, malgré tout, vis-à-vis des copains, pour ne pas être tout le temps en train de parler de ça. Mais on a aussi besoin d'avoir des moments où on peut être nous-mêmes, parler de notre enfant décédé, partager, dire les difficultés qu'on a. Et donc là, ces groupes sont vraiment essentiels pour ça.
Vous dites que la vie que vous avez maintenant n'a pas grand-chose à voir avec celle que vous aviez avant, mais c'est une vie quand même. Qu'est-ce que cela veut dire et comment allez-vous aujourd'hui ?
Alors, ça veut dire que la vie que j'ai aujourd'hui n'est pas celle que j'ai rêvée, n'est pas celle que j'aurais dû être, bien sûr, puisque ma fille n'est plus là et que, voilà, au lieu d'être 4, on est 3. Mais... voilà, beaucoup de choses autour aussi ont changé. Par exemple, j'ai changé de travail, on change sa manière de voir les choses. Beaucoup de choses qui nous paraissaient stressantes ou importantes le sont peut-être finalement pas autant que ça. Enfin, on aborde la vie de manière vraiment très très différente. Donc 7 ans après, je pense que je vais aussi bien que possible. Il y a des moments difficiles toujours, il y en aura toujours. Toutes les grandes étapes de la vie, par exemple, voilà, nous rappellent que ma fille est absente. Voilà, quand j'ai fêté mes 50 ans, ben voilà, elle n'était pas là. C'était évidemment une absence criante. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de vivre une vie. Il faut accepter qu'elle ne soit pas la même qu'avant. Il faut accepter qu'on puisse compter sur des gens qu'on ne connaissait peut-être pas ou peu avant. Enfin, il faut vraiment être très souple, je dirais, par rapport au changement pour l'encaisser le mieux possible. Mais il y a une vie qui est vraiment possible.
Merci beaucoup, Gwenaëlle, d'avoir pris votre temps pour nous partager votre histoire, pour nous faire partager cette histoire, pour comprendre encore mieux les mécanismes de cette résilience. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Catherine Marquis. Elle est coach et psychothérapeute.
Europe 1.
Comme Gwenaëlle, vous avez vécu l'impensable et vous avez réussi à vous en sortir. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la résilience. Cette épreuve par laquelle vous êtes passé aurait dû vous terrasser. Comment vous vous en êtes sorti? On vous écoute au 39-21.
Nous sommes maintenant en ligne avec Catherine Marquis, coach et psychothérapeute. Bonjour madame, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
On vient d'entendre le témoignage de Gwenaëlle dans la première partie de cette émission. On est là face à un drame qui, on parle de l'impensable, de l'inimaginable, et de cette résilience, de ce terme. Que veut-il dire exactement ?
Alors étonnamment, c'est un terme qui vient de la physique. Donc en fait, la résilience, ça caractérise la résistance au choc d'un métal, c'est-à-dire sa capacité à subir, à résister aux pressions et à reprendre sa structure. Donc son application en psychologie, c'est un peu une métaphore en fait. C'est la capacité à surmonter les chocs, les traumas, les grosses pressions et à rebondir, à reprendre pied dans la vie et à continuer.
Est-ce que nous sommes tous égaux face à un événement traumatique ?
Non, on n'est pas tous égaux. En revanche, on a tous à surmonter, à tricoter quelque chose de la résilience autour d'un trauma, parce que sinon, comme le disait Gwenaëlle dans son témoignage, si on arrête tout ou si on décide de continuer à vivre, on essaye de retrouver un élan vital, d'être à nouveau dans un processus d'évolution et de reprendre le dessus en fait. Ça ne veut pas dire que la blessure n'est plus là, mais on l'aménage en fait.
Cette résilience, elle sommeille en nous tous. Y a-t-il des processus, des étapes permettent d'y parvenir ?
Alors bon, les psychologues ont étudié beaucoup la résilience, donc il y a des données génétiques certaines, de la même manière qu'on peut prévoir que certaines personnes, certains cerveaux, on va dire, qui sécrètent des hormones comme la dopamine, la sérotonine, des hormones qui font qu'on a beaucoup d'énergie, de dynamisme, et qu'on sera moins dans la dépression, alors que d'autres vont sécréter certaines hormones qui vont vers la dépression. Ouais. Donc ça, c'est un fait. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de capacité prédictive. Il y a un élément important en dehors de la génétique, c'est l'environnement familial, c'est l'enfance. C'est ce qu'on a vécu dans l'enfance. Si on peut s'appuyer sur une sécurité de base que nous ont donné nos parents, notre environnement familial, des adultes autour de nous, rassurants, qui nous ont aider à construire une image, une image de force, on tient la route, quoi, on tient bon, même quand il y a des turbulences.
Le neuropsychiatre Boris Cyrulnik a médiatisé le concept de résilience en psychologie. Il parle d'une conjugaison affective, du besoin d'un tuteur dans sa résilience. Qu'entend-il par là, en fait ?
Alors, il parle beaucoup des enfants qui ont vécu des traumas très durs dans l'enfance, que ce soit inceste, guerre, tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, les enfants qui vivent ce genre de trauma repartent dans la vie grâce à des tuteurs, justement, de résilience, c'est-à-dire des rencontres, des personnes qui croient à nouveau en eux. Ouais. Qui peuvent leur donner un nouveau départ parce qu'ils les voient autrement que comme une victime. C'est vraiment une caractéristique des personnes résilientes. Et même quand on est adulte, comme Gwenaëlle a vécu quelque chose, un vrai trauma, elle fait partie de ces gens qui refusent d'être une victime de la vie, qui s'estime suffisamment forte. Alors, je ne sais pas d'où elle a puisé cette force de caractère qu'elle a. On l'a bien entendu, c'est une femme qui a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Mm-hmm. Donc ça, elle a dû avoir une bonne assise, un bon climat familial. Et puis, il y a des caractéristiques aussi psychologiques des gens résilients. Mm-hmm. Ce sont des gens acceptent d'être un peu des rebelles, qui acceptent d'être en dehors des sentiers battus, qui sont très créatifs, qui ont parfois assez mégalomanes, c'est-à-dire des gens qui sont au fond du trou, ou des enfants d'ailleurs, vont se dire « quand je serai grand, je serai champion du monde ». Et c'est valable aussi pour les adultes qui sont au plus mal, mais qui se disent « je vais reprendre le lead de ma vie, je vais y arriver ».
C'est un refus de capituler, en fait.
Exactement. C'est garder la capacité de rêver de sa vie, de pas accepter d'être une victime de la vie.
Mmh. Alors, réussir à surmonter ces drames, l'impensable, c'est parfois mal vu, comme si la peine devait nous emprisonner à jamais, nous empêcher de continuer à vivre, à travailler, en tout cas être en vie. Pourquoi certains portent ce regard aussi
Ça peut paraître très paradoxal, en fait, mais parce que les gens aiment bien, ils sont assez déterministes, ils aiment bien avoir l'idée qu'on contrôle la vie. Donc, s'il nous arrive une catastrophe, ça veut dire que notre vie, c'est raté, c'est fichu. Ouais. De la même manière que si on a eu des parents maltraitants, forcément, on va battre ses enfants. Ou s'il y a eu de l'alcoolisme dans la famille, forcément, on va devenir alcoolique. En fait, les gens aiment bien se rassurer en construisant une logique dans l'existence. Telle action va provoquer tel effet. Et en fait, les gens qui sont résilients, qui traversent des choses absolument terribles et qui auraient dû les terrasser, reprennent leur vie, réussissent même parfois magistralement. Et du coup, ça va à l'encontre de toutes les certitudes. Mmh. Et puis, ça renvoie aussi aux gens qui se sont contentés, qui n'ont pas eu, en fait... cette énergie de se dépasser, et du coup ça leur renvoie peut-être à eux leur manque de pugnacité. Donc c'est peut-être aussi ça qui énerve les gens. Mais vous avez raison, c'est très étrange quand les gens subissent vraiment arrivent à remonter la pente après avoir traversé des épreuves très difficiles, c'est parfois ils ont droit à des réflexions du genre des jugements. Ouais. Dis donc tu t'es vite sorti d'affaires, des jugements presque tu t'en fichais de la personne que tu as perdue ou des choses comme ça. En fait, très étonnamment.
Catherine Marquis, vous restez en ligne avec nous, vous continuez à nous apporter vos éclairages sur la résilience. Je rappelle que vous êtes coach et psychothérapeute. Dans quelques instants, nous allons accueillir Clarisse. Elle a subi des viols et des agressions sexuelles dans son enfance. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Elle se sent enfin apaisée malgré ses traumatismes. Mais elle va nous expliquer comment elle est arrivée à tout cela.
Europe 1. Vous avez réussi à dépasser un événement traumatisant. Comment avez-vous fait? Venez nous dire quels obstacles avez-vous dû franchir. Vous nous racontez votre histoire au 39-21 et vous nous écrivez sur le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous avez connu l'impensable, un viol, la mort d'un proche, la maladie. Vous avez trouvé la force de survivre. On parle de la résilience aujourd'hui. Comment ne pas sombrer? Vous discutez avec Olivier Delacroix au 39-21 et ce message de Corinne sur Facebook qui nous dit « On surmonte, ok, on intègre, ok, mais comment rebondir sans devoir forcément créer une association, en faire partie ou aider les autres ?» C'est un petit peu court comme questionnement, dit-elle, mais c'est pour ma part là où j'en suis. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais je n'ai ni l'envie, ni surtout l'énergie depuis un an et demi.
Eh bien, comme nous sommes toujours en ligne avec Catherine Marquis, qui est coach psychothérapeute, en gros, Corinne demande si dans cette résilience, les mains tendues de personnes qu'on n'attend pas spécialement, finalement, qui peuvent être loin, pas la famille, mais est-ce que cette aide est si précieuse?
Alors, cette aide est précieuse, mais effectivement, il me semble que d'avoir compris ce qu'elle explique, c'est qu'elle ne se sent pas...
Elle n'a pas l'énergie.
Elle n'a pas l'énergie d'aller vers les autres, effectivement, d'être dans le don, dans le partage, dans des groupes de parole. Ouais. Et je pense que, comme Gwenaëlle l'a fait, je pense que peut-être avant de se tourner vers les autres et vers les milieux associatifs, ou vers peut-être que pour cette personne, il serait intéressant qu'elle fasse un petit travail sur elle pour retrouver déjà l'énergie vitale, personnel, un élan de vie en elle qui ferait qu'ensuite, une fois qu'elle se serait un peu plus confortée dans son désir d'être là à nouveau et de repartir et de reprendre l'évolution de sa vie, de pouvoir accepter les autres.
Et peut-être pourrait-elle faire... Peut-être pourrait faire tel appel à une psychothérapeute pour juste amorcer ce dont vous parlez, Catherine Marquis.
Ça ne veut pas dire commencer une analyse pour 15 ans. Hein, c'est quelques séances peut-être pour faire un point,
échanger.
Pour être avec quelqu'un d'autre, mais qui sera là pour vous. Et c'est vraiment quelque chose de particulier, une psychothérapie. Donc, et ensuite, on peut peut-être retourner dans le grand monde, si je puis dire.
Nous allons accueillir Clarisse. Bonjour Clarisse, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci à vous.
Je vous en prie. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Clarisse ?
J'ai 47 ans et j'appelle Ville-de-France.
D'accord. Alors, vous avez vécu ce que je qualifie de l'impensable. Lorsque vous étiez petite, vous avez été victime d'agressions sexuelles et de viols, notamment de la part de votre voisin. Mais celui-ci s'avérait aussi être l'amant de votre mère. Du coup, c'était tellement compliqué que vous avez hésité à en parler autour de vous à l'époque.
Oui, tout à fait. J'étais enfant, donc pour moi, il n'y avait aucune parole entendue.
Ouais.
Jusqu'au moment où, en discutant avec une petite amie, elle en a parlé à sa mère et sa mère m'a fait comprendre que quelque chose de grave se passait et qu'il fallait absolument que j'en parle à mes parents, notamment donc des adultes.
Mmh. Et donc, vous avez fini par en parler à ces adultes ?
Oui.
Et quelle,
oui,
a été leur, quelle a été leur réaction ?
Le déni total.
Le déni.
Total.
Quel souvenir vous gardez de ce déni ? Parce que je suppose que ça a été d'une violence inouïe.
C'est très difficile parce que j'ai vécu toutes ces années toujours auprès de cet homme. Ouais. Mes parents n'ont pas déménagé. Donc toute une construction parce que j'avais entre 8 et 10 ans lors des faits. Et après, il a fallu se reconstruire avec cet homme qui était dans les alentours. Et ça a été assez difficile.
Quelle raison votre mère, puisque vous en avez parlé à votre mère, hein, quelle raison vous a-t-elle donné pour garder le silence ?
Elle m'a avoué par la suite qu'elle ne pouvait pas créditer mon histoire. Parce
donc
que
elle
ça
ne vous croyait pas
Ça, j'ai encore du mal à le savoir aujourd'hui. Elle s'est surtout protégée.
Ouais.
Étant la maîtresse de cet homme, serait fait éclater la famille, serait fait éclater tout le paraître qu'ils avaient. Donc, bien évidemment, il fallait taire absolument cette histoire.
Mmh. Ce que vous avez fait, hein, finalement, puisque vous avez été contrainte hein, de repartir enfant, puis adolescente, avec cette histoire, grandir avec. Vous êtes devenue ensuite maman. Et c'est à ce moment-là que tout a ressurgi. Votre agresseur qui habitait encore et toujours près de chez vous, avait refait sa vie avec une amie de votre mère, avec laquelle oui. Il avait eu des enfants. Quelles pensées vous ont traversées à ce moment-là, lorsque vous avez vu cet homme voilà, tranquillement refaire sa vie et surtout avoir des enfants ?
C'était injuste et j'avais toujours cette crainte qu'il recommence sur ses enfants, parce que pour moi, un homme qui agit de cette façon-là ne peut pas agir qu'une seule fois. On ne viole pas une personne dans la rue, on viole un enfant, on a un pouvoir dessus. Je suis tombée en dépression en 2000 jusqu'en 2010, suivie par des thérapeutes, des psychiatres et un traitement lourd, tout en étant maman et travaillant, menant une vie à peu près ce qu'on peut appeler une vie. Et ensuite, j'ai eu des échos comme quoi il aurait agi sur ses propres enfants. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de ne pas agir comme mes parents, dans le secret, mais plutôt dévoiler cette histoire. Et j'ai enfin écrit une lettre au procureur de la République expliquant les faits et mes craintes surtout. Parce que moi, c'était fait, mais je ne voulais surtout pas que ça se reproduise.
Mmh. Clarisse, vous restez en ligne avec nous. On va continuer de parler dans quelques instants de votre histoire, comment vous avez réussi à devenir résiliente et à accepter, à apprendre et à vivre avec ce qui vous est arrivé. Et surtout, savoir qu'est-il devenu de cet homme, de ses enfants. On ne se quitte pas, on reste ensemble. À tout de suite, Clarisse.
Europe 1. Vous êtes passé par une épreuve qui vous paraissait impossible à dépasser. Pourtant, on parle de la résilience cet après-midi sur Europe 1 avec vous au 39-21. Accident, enfance difficile, perte d'un proche, agression sexuelle. Vous avez vécu l'impensable et vous ne vous êtes pas laissé tomber au fond du gouffre. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour venir nous raconter votre histoire.
Et nous sommes toujours en ligne avec Clarisse qui nous expliquait avoir vécu des viols à répétition de la part de ce voisin qui était aussi l'amant hein, de votre mère. Et puis cet homme habitant toujours tout près de chez vous avait refait sa vie, avait fait des enfants jusqu'au moment où vous nous expliquez que des pensées vous ont traversé quant à ses enfants et ce que pouvait faire cet homme avec ses propres enfants et que vous avez écrit au procureur. Est-ce que cette étape-là, parce que vous allez me parler de cette réponse et des suites qu'a donné le procureur à votre lettre, est-ce que cette étape-là, elle était incontournable dans votre résilience ?
Ah, tout à fait. Il fallait absolument. Je pouvais pas être identique aux gens qui se taisent et qui cachent des secrets pareils et aussi dangereux. C'était vraiment très important.
Parce que êtes-vous rentré en contact avec les enfants de cet homme et finalement, est-ce
suite,
que les pensées qui vous ont traversées sont révélées être vraies?
Ah oui, parce que j'ai été entendue par les gendarmes suite à ma lettre au procureur.
Ouais.
Ça a été classé sans suite parce qu'il y avait prescription et je ne pouvais porter plainte.
Ouais.
Et puis ça aurait été difficile de prouver en même temps.
Mmh.
Et j'ai toujours appelé tous les 6 mois la gendarmerie pour savoir où ça en était. Et jusqu'à un jour, on m'a dit « Écoutez, il faut venir à nouveau aujourd'hui ». Donc j'y suis allée, j'ai été auditionnée une deuxième fois et il s'avérait que, en effet, un dossier venait d'être ouvert pour ce monsieur concernant ses enfants.
Mmh. Votre entourage, vos proches, vous ont-ils aidé dans cette résilience?
À part mon mari et mes enfants, aujourd'hui, pas vraiment.
Aujourd'hui, en fait, on va y venir, mais dans cette résilience, il n'y a plus de colère, d'incompréhension. Je pense notamment à l'attitude de votre mère, parce que vous l'avez évoqué en début de témoignage, mais vous n'y avez plus fait allusion. Elle est toujours là, cette mère. Quelle relation vous entretenez avec elle?
Une relation assez stable, je pourrais dire. Mais en fait, c'est aussi l'image que je peux lui représenter, la force d'être allée au-delà de ce qu'elle a fait.
Ouais.
C'est comme une... On n'a pas parlé de revanche, mais...
Catherine Marquis, tout à l'heure, faisait allusion à ces êtres égocentriques au point qu'ils refusaient de capituler. Est-ce que vous vous êtes reconnue là-dedans?
Oui, tout à fait.
Mmh. Et donner cette leçon à votre mère, expliquez-moi ça, parce que j'ai envie de comprendre ce que vous entendez par là.
On se sent tellement sale et on a l'impression d'être coupable de ce qui s'est passé. Et quand on remet les choses un peu à leur place, on n'est pas du tout coupable, on est victime d'agression.
Oui.
Et ça n'est pas des sujets tabous, même si ça touche votre... En fait, les gens autour de vous ont beaucoup de mal à vous approcher ou à vous entendre ou à vous regarder quand vous parlez de ces faits.
Mmh.
Parce que je pense que le viol touche une intimité dérangeante. Et au final, vous n'avez pas de soutien. Donc c'est aussi montrer aux autres qu'on peut se battre. Et que peu importe le problème, on a le droit à la parole, on a le droit on a droit de vivre aussi. Et ça fait, c'est tisser sa propre histoire, certes, qui peut faire mal qui peut faire mal pour certaines personnes à entendre,
oui.
Mais c'est la sienne. Et je n'avais pas envie de rester cachée, d'avoir honte, de me sentir sale. Je n'y étais pour rien et il fallait absolument que je me mette en action. Le fait de ne pas se mettre en action permettait de laisser la porte ouverte pour les autres, futures victimes. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'était insupportable.
Mmh. Alors, ce qui est important de préciser dans votre histoire, c'est que cet homme, il y a une plainte de déposer par l'un des enfants de cet homme,
oui.
Et que finalement, cet homme, au cours du procès, les accusations de ses enfants ont été, au cours de procès, les enfants n'ont pas tout révélé. Hein, et cet homme, n'a pas été condamné finalement à une lourde peine. Il a presque, il a écopé de rien pour les choses horribles qu'il avait commises.
Ouais.
Mais malgré tout, en fait, je précise tout ça à tous ceux qui nous écoutent. Malgré tout, votre démarche, celle de d'écrire au procureur, d'être entendu par les gendarmes et de révéler ce qui s'était passé, a été une étape vraiment importante dans votre résilience.
Oui, tout à fait. Et de fait, c'est que j'ai pu voir le juge d'instruction. Je n'ai pas été appelée au procès parce qu'il y a eu un changement de juge d'instruction en cours. Donc j'ai eu des réponses à mes questions après procès en recherchant justement ses enfants et son ex-femme.
Ouais.
Mais c'est surtout la reconnaissance officieuse du juge d'instruction d'être considéré comme quelqu'un qui disait la vérité, enfin.
Ouais.
Parce que le processus d'approche qu'il a eu avec moi était identique avec celui de ses enfants, entre autres.
Mmh.
Et donc il n'y avait aucun doute sur les faits que moi j'avançais. Ce qui était très important parce que quand vous êtes enfant et que vous donnez votre récit de ce que vous avez vécu, même si vous avez des mots à vous d'enfant, lorsque vous en parlez avec vos parents, vous avez toujours l'impression, on vous fait ressentir que c'est peut-être pas vrai, tu fabules peut-être, etc. Et là, d'être reconnu par un juge d'instruction, comme même si c'est officiel,
comme une victime,
comme victime, ouais. Ça permet de poser les bagages et de se dire bon, bah, ok, ça c'est fait, maintenant il y a pas d'autre solution, c'est soit je reste victime et je m'enfonce dans cette vie qui n'est pas une vie, parce qu'on est comme un robot, on vit avec tout son passé sur les épaules, ou soit on avance et on mérite de vivre et il y a autre chose à faire. Ne pas laisser en fait les faits que cet homme a fait vous emprisonner et vous empêcher de vivre. Ça fait partie de mon passé, c'est ma vie, c'est tissé, mais je ne veux pas lui donner plus d'importance que ça et je veux pouvoir vivre la vie qui m'est offerte aujourd'hui.
Clarisse, j'aimerais entendre Catherine Marquis, qui est coach et psychothérapeute, sur votre témoignage, puisqu'il résonne fortement à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Catherine Marquis, sur le refus de capituler. On entend bien dans ce que nous raconte Clarisse ce refus. Clarisse, qui est passée quand même par une lourde dépression et qui a dû se battre. Certaines personnes passent donc par cette profonde dépression avant de rebondir. C'est une étape nécessaire de passer aussi par là.
Nécessaire peut-être pas, mais c'est aussi un moyen de se sortir, d'entrer dans la résilience, parce que quand on surmonte une dépression, quand on descend complètement au fond du trou et qu'on en ressort, on en sort avec une nouvelle force. Et on s'est dit qu'on a vécu, on s'est vu pouvoir surmonter ça, sortir du marasme en fait, et du coup finalement, paradoxalement, on est plus fort après qu'avant. Et on peut s'appuyer sur cette nouvelle force qu'on a découverte en soi. Enfin, c'est un processus qui peut être un moteur. Mais ce que je trouve vraiment formidable dans ce témoignage, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, elle a refusé de garder son statut de victime, d'être l'objet de la jouissance d'un pervers, en fait, un instrument. Et elle est devenue un sujet, c'est-à-dire une personne qui décidait de sa vie, de ses choix, en parlant. Vous posiez une question tout à l'heure sur le tuteur de résilience et ce juge d'instruction en la croyant, c'est-à-dire qu'il l'a réhabilité en fait dans sa.
Vous parliez de reprendre. De reprendre sa place dans le monde tout à l'heure. Hein. Je crois que vous parliez de ça et Clarisse l'a évoqué très clairement. C'est qu'à partir du moment où ce juge l'a entendu, elle passait d'un autre statut, celui de victime. Et je trouve que ce témoignage éclaire vraiment cette résilience, c'est toucher le fond et puis dire non, on est au fond, mais on se bat. Et puis petit à petit, remonter. Et merci beaucoup pour avoir partagé votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Clarisse, Catherine Marquis, vous restez bien évidemment en ligne avec nous pour continuer à nous apporter vos éclairages. Dans quelques instants, nous accueillerons Catherine. Elle a su il y a quelques années qu'elle était atteinte d'un cancer qui ne se guérit pas. Aujourd'hui, elle veut vivre et puis elle se bat.
Europe 1. Vous avez vécu une épreuve qui vous a traumatisé. Vous avez trouvé suffisamment de force en vous pour vous en sortir, pour rebondir, pour continuer. Par quoi êtes-vous passé? Vous nous racontez au 39-21. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la résilience. Comment rebondir après un traumatisme?
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Catherine. Bonjour Catherine, soyez la bienvenue.
Bonjour.
Sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Catherine?
J'ai 47 ans et je vous appelle de la vallée de Chevreuse.
D'accord.
Donc en banlieue parisienne.
Tout près, oui c'est ça. Il y a 5 ans, Catherine, on vous a diagnostiqué une maladie grave. Laquelle?
Alors en fait, on m'a diagnostiqué un cancer du sein métastatique, c'est-à-dire que c'est pas dû à une rechute ou à un cancer du sein qui serait revenu, qui se serait développé par la suite. C'est dès le diagnostic de mon premier cancer du sein, entre guillemets, on m'a tout de suite dit qu'il était métastatique, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses du sein étaient parties, pour moi, elles étaient dans les lymphes et surtout dans le dos. Donc j'ai des métastases osseuses dans le dos et dans le bas du dos.
Ce qui signifiait que c'était irrémédiable, en fait, c'est ce que vous voulez dire?
En fait, c'est-à-dire que c'est un cancer qu'on ne peut pas guérir. On peut le garder sous contrôle, on peut contrôler le développement des métastases le plus longtemps possible. Le jour où elles redémarreront, entre guillemets, où elles vont reprendre leur activité, ben à ce moment-là, les médecins, les oncologues envisageront un nouveau protocole pour pouvoir essayer de combattre leur retour.
Oui.
Et voilà, et l'objectif donc dans ce genre de cancer du sein métastatique, c'est de vivre le plus longtemps possible avec les métastases qui sont sous contrôle et qui finalement dans ces cas-là, on a des effets secondaires qui sont compliqués, mais qui en tous les cas, pour mon cas, me permettent quand même de vivre une vie normale. Mais en tout cas, je mourrai avec mon cancer.
Alors,
pas de mon cancer, mais avec mon cancer.
J'imagine que vous êtes passé par différents états d'abattement, de sidération, sans doute de peur. Mais très vite, vous n'avez pas voulu vous encombrer à l'esprit. Expliquez-moi ça, parce qu'aujourd'hui, on parle de cette résilience. Et vous vivez cette résilience. Parce que, voilà, ne pas vouloir... On parlait tout à l'heure de dire non. Hein. Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui ? Est-ce que vous vous dites cela tous les jours ?
Alors, tous les jours, je ne peux pas le dire d'abord parce qu'il y a, comme tout le monde, il y a des moments où je vais un peu moins bien, il faut être honnête. Hein, on n'est pas tout le temps résilient. Enfin, c'est les personnes qui arrivent tout le temps résilientes, moi j'admire. Mais
comme tout le monde, hein, on ne va pas.
Mais voilà, exactement. On ne va pas tout le temps bien. Donc, en revanche, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis dit que d'abord, j'avais donc 42 ans quand on m'a annoncé mon cancer. Ma fille, qui était la plus jeune de mes enfants, avait 10 ans. J'ai 3 enfants. L'aîné n'en avait que 16. Et pour moi, il était même pas envisageable, que je ne les vois pas grandir, que s'ils ont envie de se marier, que je ne les vois pas se marier, que s'ils ont envie un jour d'avoir des enfants, que je ne vois pas mes petits-enfants. Enfin, pour moi, c'était même pas dans une pensée, dans un seul recoin de ma pensée, quoi. C'était pas possible. Mm-hmm. C'était pas possible. Donc, à partir de là, plutôt que de voir les aspects négatifs, j'ai essayé de me dire, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'ai, entre guillemets, parce que c'est là, et donc c'est là, on ne peut plus rien y faire, on ne peut pas revenir en arrière. Donc comment est-ce que je peux essayer de vivre avec ?
Et est-ce que c'est là que vous vivez cette résilience, justement, en ayant commencé à vous poser ces questions ?
Je pense que c'est arrivé très très vite, oui. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, c'est ça, mais je vais continuer de vivre, je ne veux pas être juste une patiente, je ne veux pas être juste une malade métastatique, je veux aussi continuer à être une femme, une mère, une personne qui travaille, de faire partie de la société, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale, enfin je veux continuer à faire tout ça. Et le cancer c'est une partie de moi, mais ce n'est pas tout moi, ce n'est pas lui qui le contrôle, c'est moi qui vais essayer de prendre le contrôle le plus possible.
Mmh. Et vous y arrivez aujourd'hui ?
J'y arrive plutôt pas trop mal.
Voilà, vous y allez plutôt pas trop mal, parce que je pense à tous ceux qui, à votre place, auraient capitulé. Encore une fois, Catherine, vous nous avez expliqué que voilà, vous ne capituliez pas devant tout ça. Et merci mille fois pour nous avoir fait part de votre histoire, de votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Mille merci, Catherine. Merci aussi à Gwenaëlle, à Clarisse, de nous avoir fait aussi partager leur histoire. Merci à Catherine Merki pour ses éclairages. C'est la fin de cette émission. La résilience est, à mon sens, un mélange de courage, de positivisme et de rage de vivre. Comme nous le disait Gwenaëlle, elle peut passer par le fait d'accepter les mains tendues, même aux moments les plus sombres. C'est accepter aussi parfois de toucher le fond pour ensuite avancer. Il faut penser à soi et à ses besoins profonds. Si la résilience vous intéresse, n'hésitez pas à lire les ouvrages du neuropsychiatre Boris Cyrulnik à ce sujet. J'ai été ravi de passer cette heure avec vous, ma chère Ombline.
Également.
Et puis on peut continuer à en parler tout ça avec Sophie Peters ce soir notamment, sur les réseaux sociaux.
Voilà, Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1, vous n'hésitez pas à échanger, à venir vous confier sur l'antenne d'Europe 1, c'est de 22h30 jusqu'à 1h du matin. Et puis les réseaux sociaux, vous le savez, il y a la page Facebook de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des réseaux sociaux. Peut-on s'en passer aujourd'hui sans être à la marge ? Si vous ne vous êtes jamais inscrit sur aucun réseau social par choix, vous êtes un recordman, hein, parce que je n'en connais aucun. N'hésitez pas à nous appeler. Si vous vous êtes rendu compte que les réseaux sociaux prenez trop de place dans votre vie, ou si vous êtes complètement accro aux réseaux sociaux, eh bien appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous appeler, pour nous raconter votre histoire. Et nous serons là pour vous écouter dès demain à partir de 15h.
À demain.